Calade.
Calade.
Ma radio. Différente, curieuse et indépendante.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous sommes donc bien sur Calade et c'est l'heure de retrouver notre chronique Nuances du Monde. Et cette semaine, c'est Jean-François qui s'y colle. Salut Jean-François.
Salut Emma.
Alors du coup, tu vas nous faire un hommage un petit peu particulier aujourd'hui, c'est bien ça ?
Oui, j'avais envie de rendre hommage, à ma façon, à Jean-Marie Le Pen, parce que depuis sa mort, le 7 janvier dernier, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Alors, certains disent que c'est un combattant, par exemple, notre Premier ministre actuel, François Bayrou. D'autres considèrent que c'est un visionnaire, comme Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Mmh. Et finalement, on pourrait dire que c'est comme si le vieux leader d'extrême droite, président du Front National de 1972 à 2011, avait changé dans ces dernières années, tournant le dos à une vie de racisme et d'antisémitisme.
Oui, hein, il semble bien que dans visionnaire et combattant, on ait une vision un peu limitée de la chose.
Après, plutôt positive. Et pourtant, Le Pen n'a jamais cessé d'être Le Pen. Pas question à ses yeux d'entrer dans le moule de la normalisation tant souhaitée par sa fille Marine. Je vous propose donc de revenir sur le rôle du soldat Le Pen durant la guerre d'Algérie et de le présenter tel qu'il était, c'est-à-dire raciste et antisémite.
Très bien. Alors du coup, le 1er novembre 1954, on se rappelle que le FLN commet des attentats contre la présence française en Algérie, déclenchant ce qu'on a appelé alors des opérations de maintien de l'ordre. Comment réagit Jean-Marie Le Pen à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen est déjà engagé en politique. Il va même être élu en 1956, à 28 ans seulement, plus jeune député sous l'étiquette poujadiste. Alors il décide... dès le mois d'octobre 56, de s'absenter 6 mois des bancs de l'Assemblée nationale pour rejoindre l'Algérie et s'engager dans le premier régiment étranger de parachutistes.
D'accord.
Donc vraiment, il veut garder l'Algérie française. Son but, c'est de œuvrer à cela.
Très bien.
Et c'est justement au sujet de sa guerre d'Algérie que Jean-Marie Le Pen était le moins à l'aise avec la vérité. Alors, je me suis reposé sur des travaux d'historiens, surtout celui de Fabrice Risseputi, qui nous apprend dans Le Pen et la torture, Alger 1957, histoire contre l'oubli qui restera donc du 28 décembre 1956 au 31 mars 1957.
D'accord, donc il est resté en Algérie pendant plusieurs mois.
Voilà, c'est ça. Et Fabrice Risseputi nous apprend que le lieutenant Le Pen arrive au début de la fameuse bataille d'Alger et après le vote par le Parlement des pouvoirs spéciaux accordés à l'armée pour rétablir l'ordre dans le pays. Alors la pratique reste illégale en France, du moins officiellement, mais les preuves du recours à la torture en Algérie font aujourd'hui l'objet vraiment d'un consensus historique total avec de très nombreux témoignages et des preuves accablantes.
Très bien. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait ce jeune officier Le Pen au cours de cette période ?
Alors l'ancien combattant de l'Indochine, puisqu'il avait déjà fait l'Indochine avant, hein, s'est plusieurs fois exprimé sur cette question. Il a d'abord évoqué par deux fois sa participation à des interrogatoires. La première fois, dès 1957, lors d'un débat public où il utilise l'argument classique de la nécessité pour justifier avoir eu recours à la torture ou à la question, comme il aimait le dire.
Ah oui, c'est pratique hein, d'appeler ça la question.
Exactement.
On n'emploie pas tout à fait les mots qui parlent.
Il assume de nouveau en novembre 62, après la fin de la guerre et l'amnistie qu'il y a eu en France, en s'incriminant explicitement lui-même dans le journal Combat. Je cite... « Je n'ai rien à cacher. J'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Quand on amène quelqu'un qui vient de poser 20 bombes qui peuvent éclater d'un moment à l'autre et qu'il ne veut pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour les contraindre », déclare donc Jean-Marie Le Pen. Et il dément, au fur et à mesure ensuite de sa carrière, ses propos.
Ah oui, donc au départ, il assume complètement.
Voilà.
Et puis petit à petit, il revient.
Surtout, en fait, il va vraiment démentir de plus en plus à mesure qu'il engrange les succès électoraux à partir des années 80, vraiment, et qu'il devient une personnalité politique de premier plan.
Et ça fait tâche d'être un tortionnaire.
Exactement. Et il n'hésite pas, du coup, à attaquer en diffamation toutes les personnes osant le qualifier de tortionnaire, justement. Il gagne dans un premier temps ses procès, notamment contre le Canard Enchaîné, Libération, ou encore même l'ancien Premier ministre Michel Rocard. La justice estime alors qu'il n'a jamais revendiqué le fait d'avoir personnellement pratiqué la torture. Mais à mesure que les preuves s'accumulent, que les témoignages affluent, la justice va changer son regard sur ce dossier. Alors au début des années 2000, après des années de procédure, la Cour de cassation confirme la relaxe de Michel Rocard, puis de l'historien Pierre Vidal-Naquet, qui avait tous les deux accusé le responsable frontiste d'avoir pratiqué la torture en Algérie. Mmh. Le coup de grâce judiciaire, il intervient en 2003. Celui qui était déjà président du Front National avait attaqué Le Monde pour une enquête et une série de témoignages publiés par la journaliste Florence Bauger. Le tribunal relaxe le journal en évoquant une enquête particulièrement sérieuse et approfondie et des témoignages d'une crédibilité certaine. La cour d'appel va valider ce jugement en 2004 et la cour de cassation rejeter le pourvoi du camp lepéniste.
Donc il est bien reconnu coupable.
Exactement.
Et alors, quels sont les témoignages qu'il accuse Jean-Marie Le Pen ? Tu peux nous en dire un peu plus ?
Je vais en parler de quelques-uns, trois au moins. On a une quinzaine de témoignages particulièrement circonstanciés, hein, et rien dans ces témoignages ne permet de les mettre en doute. Ils sont remplis de détails, de dates, de faits qui les rendent extrêmement crédibles. Alors, je vais citer le premier, c'est celui de Mohamed Abdellaoui, qui raconte sa douloureuse rencontre avec celui qu'on surnommait le menhir dans le documentaire « Le Pen et la torture, la question », qui a été diffusé en 2007 sur France 2. Mmh. Alors je cite Mohamed Abdellaoui, il dit « Il y avait un fil électrique dans le sexe, le deuxième fil dans le doigt de pied droit, et après Jean-Marie Le Pen a jeté un bidon sur mon corps. Mmh. » On a ensuite un camarade de Jean-Marie Le Pen, qui était l'ancien légionnaire hollandais Wilhelmus Wahl, qui confie ses souvenirs en 1985 à Libération et qui dit, je cite à nouveau, « J'ai vu des sadiques, ce qui n'était pas le cas de Le Pen, mais rarement des officiers qui s'engagent de telle façon. Ils tapaient sur un type qui était déjà bien entamé et encore branché à la GGN. »
Ouais, d'accord.
Donc c'est assez net.
C'est édifiant en tout cas.
C'est édifiant. Et puis le dernier témoignage qui vient enfoncer le clou, c'est l'histoire d'Ahmed Boumoulet, qui est relaté par Le Monde. Et son fils Mohamed racontera à plusieurs reprises que son père a été torturé et tué par les militaires français dans sa maison qui se situe en plein cœur de la Casbah, donc la vieille ville d'Alger.
D'accord.
Le corps du supplicié a été criblé de balles. Et après le départ de l'armée, le jeune garçon, qui avait 12 ans à l'époque, découvre qu'un militaire a oublié un ceinturon en toile avec un poignard des jeunesses hitlériennes dans son fourreau. Et sur ce poignard, qu'est-ce qu'il y écrit ? Jean-Marie Le Pen, premier REP, c'est-à-dire premier régiment étranger de parachutistes.
D'accord. Effectivement, ça semble sans appel.
Oui.
Et du coup, alors tu nous présentais en introduction un Jean-Marie Le Pen antisémite. Est-ce que tu peux développer également ces propos ?
Ouais, parce que ça va permettre de rectifier ce que disait Jordan Bardella à la fin de l'année 2023, qui affirmait qu'il ne croyait pas que Le Pen était antisémite. L'histoire du poignard nous montre déjà qu'il était admirateur du Troisième Reich. Mmh, hein. D'ailleurs, il a aussi eu un travail, Jean-Marie Le Pen, dans les années 60, où il produisait des disques du Troisième Reich.
D'accord.
Voilà, un petit métier sympa. mais il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il n'a jamais cessé de cibler les Juifs et n'a renié aucune des déclarations pour lesquelles il a d'ailleurs été condamné de multiples fois par la justice. Ainsi, on se souvient de 1987, où il a qualifié les chambres à gaz de point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, plus récemment, lors d'entretiens avec des journalistes du Monde qui l'interrogeaient sur cette remarque, il a répondu par une autre provocation, disant « On a jugé mon expression pas assez chaleureuse ». Voilà. Et il en vient même à nier clairement l'existence des chambres à gaz, puisque pour lui, le négationnisme est une opinion. Et derrière des profanations de tombes juives qui émaillent l'actualité, assez souvent malheureusement en France, il fantasme, lui, un coup monté, y voyant même la main d'un lobby juif qui a besoin de se faire un crédit moral ou financier.
Ah oui, d'accord. Donc c'est les juifs qui pillent leurs propres tombes.
Exactement. Ouh. Tout ça pour faire parler d'eux, se faire de l'argent, etc. etc.
Bien sûr.
Bon, bref, le complot juif traditionnel. Vous aurez donc compris, à travers toute cette chronique, que Jean-Marie Le Pen était un personnage violent, raciste et antisémite, et que malgré toutes ces entreprises de dédiabolisation, les hommages rendus par les figures majeures du Rassemblement national lors de la disparition de sa figure tutélaire, illustre que ce parti maintient les visées idéologiques nauséabondes du premier président du Front National.
Eh bien, merci Jean-François pour cet hommage édifiant. Et à la prochaine.
À la prochaine.
Prenons le temps d'en parler. Prenons le temps d'écouter.
Calade, ma radio.